Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, un rappel du contenu de la conférence précédente, je vais peut-être vous demander votre avis. On a une idée qui serait de peut-être éditer un CD en format MP3 qui reprend l'ensemble des conférences et qui serait vendu au prix de 5 €. Mais ça vaut la peine de le faire quand on sait qu'on doit en faire une vingtaine, si j'ai bien retenu le nombre, sinon ça ne sert à rien de mettre en route le gravage des CD. Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés par cela ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main pour que j'ai une vague idée? Ok, il y en a sûrement 20. Ça va. Je vous enverrai peut-être alors un email comme j'ai déjà fait précédemment et vous pouvez me répondre si vous le souhaitez ou non. Comme ça, j'ai un nombre à peu près de CD à graver pour la fin du cycle. Donc ce sera à la dernière... Non. Ah. Il faudra qu'on réfléchisse à la façon de vous le faire parvenir puisqu'il faut graver la dernière conférence également. Donc voilà, c'est en route. Mais donc ça vous intéresse. Donc voilà, je vais reprendre les points essentiels de la conférence de Béatrice Brault qui est venue le 26 janvier ici et qui nous parlait de la phobie et du monde, les séances 12 et 13 du séminaire 4. Le premier, elle a au fond suivi l'ordre des chapitres du livre, le premier chapitre étant le signifiant dans le réel. Elle nous a indiqué que Lacan commençait ces chapitres en nous présentant au fond le conte de la lettre volée écrite par Edgar Poe et qui avait été traduit par Baudelaire. Elle nous a indiqué d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, que ce titre lettre volée était peut-être pas le plus adéquat puisque Lacan pensait plutôt qu'il fallait parler d'une lettre détournée plutôt que volée. Étant donné qu'au fond, c'est pas tellement le contenu de la lettre qui est intéressant dans ce cas-ci, mais le fait qu'elle circule. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, elle nous a donné une série de références pour expliquer que cette lettre volée, Lacan a repris ça sous une forme complète dans les écrits, en reprenant au fond une succession de textes que je vous rappelle rapidement, qu'il a organisé en 4 chapitres. Donc la première partie, c'était la réécriture des chapitres 15 et 16 du séminaire 2 de Lacan. La deuxième partie, c'était ce qu'il a intitulé « Présentation de la suite » et c'était écrit en 66. La troisième partie, reprise de l'article paru dans « La psychanalyse numéro 2 » écrit en 55. Donc vous voyez qu'on fait des allers-retours dans le temps. Et la quatrième partie, parenthèse des parenthèses, en 66 également. Ça, c'est pour les références bibliographiques. Et donc, elle nous a lu un résumé que je ne reprends pas ici de l'histoire de cette lettre volée qui se trouve page 228 et 229 dans le séminaire 2 de Lacan. Elle nous rappelle que donc Lacan, en 55, dans ce séminaire-ci, est toujours dans le premier temps de son enseignement où il essaye d'introduire le registre du symbolique. Et où il s'agit encore de voir son articulation avec la relation imaginaire du moi à l'autre. Pour ce qui est de ce premier chapitre, elle va relever 2 points essentiels, ce qu'elle appellera, Béatrice Brault, le jeu de père et impair, et le deuxième point, la lettre détournée qui circule. Pour le jeu de père et impair, elle nous rappelle la petite histoire de cet enfant de 8 ans qui devine toujours correctement le nombre de billes que ses camarades cachent dans la paume de leurs mains et dit qu'au fond, c'est en s'identifiant à l'intellect de son adversaire que ce petit enfant arrive ainsi à deviner la façon dont il va cacher les billes dans ses mains. Alors, Lacan dit qu'il s'agit... Lorsqu'on procède de la sorte, qu'il s'agit d'une exclusion du symbolique, dès lors qu'il y a identification, puisque c'est un processus d'identification, non pas à l'adversaire, mais au raisonnement de l'adversaire. Et il s'agit toujours d'une articulation imaginaire qui échoue lorsqu'on est en articulation, en identification imaginaire à l'autre de cette sorte-là. Et il nous dit qu'il ne peut aboutir cette identification imaginaire et qu'il faut que ça aille au fond pour que ça aboutisse positivement au-delà de la relation duelle. Tous les exemples donnés dans ce séminaire de combinatoire montrent que dès le surgissement élémentaire du signifiant, la loi surgit indépendamment de tout élément réel. Et c'est de là qu'elle nous explique qu'au fond, le symbolique est comme un soc dans le réel. À cette période-là de l'enseignement de Lacan, ce qu'elle a symbolisé par les deux petits cercles que j'ai repris ici. Alors qu'elle nous invite à ne pas confondre, dans un second temps dans l'enseignement de Lacan qu'on laissera ici dans ce séminaire, le réel procède comme d'un trou dans le savoir, dans le symbolique. Donc on n'est pas à ce stade-là, pour l'instant. Le langage détermine bien le sujet, il fait loi pour lui. Et de là, elle nous donne une indication sur la pratique de l'analyse et de la relation de l'analyste à son analysant, puisqu'il s'agit bien de saisir les signifiants du sujet et non pas de se situer sur un axe imaginaire dans un rapport à lui. Alors, elle nous parle ensuite de la lettre détournée qui circule. Donc, elle rappelle que Lacan estimait que Baudelaire a mal traduit ce titre, car au fond, c'est le fait que le trajet est prolongé, que la lettre a subi un détour, qui nous intéresse dans cette histoire de la lettre volée. Le contenu de la lettre importe peu. Elle fait l'objet d'un chantage, ça c'est intéressant. Elle est donc devenue un symbole qui se déplace à l'état pur. Donc, au fond, dès qu'on reçoit cette lettre, ça transforme celui qui reçoit cette lettre. Et elle pointe ici, Béatrice Brault, le fait que ce qui est important, c'est le circuit symbolique de cette lettre, le fait qu'il y ait des permutations et des transformations, transformation de la personne qui détient la lettre à un certain moment. Et que ce qui est intéressant, c'est au fond la fonction qu'a cette lettre plus que son contenu. Puisqu'au fond, c'est la fonction d'un certain pacte, d'une certaine confidence, puisque cette lettre a été adressée à une personne. Et au fait qu'elle est là, dissimulée, prise dans sa présence-absence, un peu comme dans le jeu de Forda qu'on a déjà souvent évoqué au cours des séminaires ici, et donc dans un circuit symbolique. Tout cela se déploiera dans la suite des séances. Alors, le déploiement, pourquoi est-ce que Lacan parle de cette lettre volée, au fond, comme introduction dans ses paragraphes ? Parce que le déploiement de la phobie du cheval chez Hans est analysable d'un point de vue structural, en partant des signifiants de Hans, qui eux aussi vont circuler du début à la fin de l'analyse, vont subir également, comme la lettre volée, des permutations et des transformations. Béatrice Brault va reprendre le cas du petit Hans, là où il en était, que je ne reprends pas ici dans le détail, mais elle nous introduit à deux termes qui sont ceux de métaphore et métonymie, qui renvoient à la notion de substitution, nous dit-elle, dont on parle lorsque l'enfant ne donne à la mère qu'une satisfaction provisoirement substitutive. Alors, Lacan dit qu'il ne s'agit pas de substitution réelle, mais de substitution signifiante, et de savoir ce qu'elle signifie, de savoir quelle est la fonction de l'enfant pour la mère et la fonction de l'enfant par rapport au phallus, objet du désir. Alors, je reprends peut-être parce que ce sont des formulations de questions qui me semblent bien cadrées, au fond. Que sera la question de la métaphore et de la métonymie dans ce cadre-là ? Et je vais les dire doucement parce qu'elles me semblent importantes. La métaphore, on l'exprimerait alors, est-ce que l'enfant est la métaphore de l'amour de la mère pour le père ? Ou pour le dire autrement, est-ce que l'enfant vient se substituer au père comme objet d'amour de la mère ? Du côté de la métonymie, on trouvera, est-ce que l'enfant est la métonymie du désir du phallus de la mère ? Ou pour le dire autrement, est-ce que l'enfant vient se substituer à l'objet phallique désiré par la mère ? Alors, elle nous indiquera également que si on part par exemple du signifiant du petit Hans, de cette phobie des chevaux et non pas du cheval, c'est-à-dire tous les chevaux, c'est-à-dire que c'est très envahissant parce qu'à l'époque des chevaux, il y en a partout dans la rue, eh bien ce signifiant va revêtir plusieurs... va mener un circuit différent selon que les chevaux sont là pour symboliser le père ou la mère ou le petit Hans lui-même. Et on verra d'ailleurs que ces signifiants font un circuit et ne sont pas univoques dans la bouche de l'enfant. Elle nous parlera également de la fonction du mythe pour le petit Hans, qui au fond va constituer un ensemble de tentatives de bricolage d'accéder au symbolique pour l'enfant. Et ces mythes, tout au long de l'analyse et du cas du petit Hans, vont eux aussi circuler, eux aussi, comme pour la lettre volée, on y revient, subir des transformations et des permutations. Et ils auront une fonction fondamentale pour l'enfant puisqu'ils permettront d'aborder des thèmes tels celui de la vie, de l'amour et du sexe à travers ces mythes. Alors, on verra aussi la fonction, au fond, de l'intervention du père dans le réel, qui était un peu guidée par Freud, qui était là en arrière-plan. Et enfin... On terminera la séance par cet exemple de bricolage, au fond, qu'a fait le petit Hans à travers le dessin des deux girafes. Je vous rappelle, il avait dessiné une grande girafe dont on pouvait penser qu'elle symbolisait le père et une petite girafe qu'il avait roulée en boule et sur laquelle il s'était assise. Et donc, Lacan, à la suite de Freud, note là que c'est très différent de simplement rester au niveau de l'imaginaire en faisant un dessin de petite girafe ou de le transformer en boulette, et là, il devient symbolique, et de s'asseoir dessus. Et donc, au fond, c'est un premier essai de bricolage du petit Hans. Donc, nous dit-elle Béatrice Brault, dans ce cas, on peut dire que le mythe participe à l'élaboration de l'impossible à dire pour l'enfant, de ce qui fait énigme, des questions sans réponse dans le quotidien du monde qui l'entoure. Je pense que, en disant ceci, j'ai à peu près repris l'essentiel des points de la conférencière de la semaine passée. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Mariage, qui va nous parler donc des chapitres 14 et 15. C'est bien les 14 et 15
ou 16 et 17.
16 et 17.
J'espère que je me trompe.
Non. C'est dans mon document qui a erreur et au tableau.
Oui, c'est 16 et 17.
Mais donc, c'est bien 16 et 17.
Et donc là, c'est 14 et 15.
Voilà. J'ai eu une hésitation et ma première écriture était la bonne. Véronique Mariage, vous êtes directrice thérapeutique au Courtil où vous vous occupez d'enfants jeunes. Vous êtes également psychanalyste, recevant en consultation privée, et vous êtes membre de l'école freudienne. Voilà, je vous cède la parole.
Bon, de l'école de la pause freudienne, c'est pas pareil. Parce qu'il y a aussi l'école freudienne. Voilà, donc je vais poursuivre, et je crois qu'il y aura certainement une série de... D'ailleurs, on fait comme le petit Hans dans ce séminaire, c'est-à-dire que, on redit les choses d'une manière toujours, Lacan redit les choses d'une manière toujours un peu déplacée, toujours comme ça, en boucle. C'est très caractéristique, je trouve, dans les deux chapitres donc qui suivent ces deux chapitres-là qui avaient été présentés par Béatrice Brault. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux chapitres, on rentre vraiment au cœur du travail analytique du petit Hans. Alors, de quoi relève-t-il ce travail? Alors, comme vous l'avez déjà entrevu dans les chapitres précédents, tout le progrès de la cure de Hans consiste à faire passer donc l'imaginaire au symbolique, afin d'y recouvrir un réel inassimilable. Alors, c'est comme ça que Lacan le dit. Il dit recouvrir un réel inassimilable. Tous les mots ont leur importance. Parce qu'il ne dit pas traiter un réel inassimilable et après, ensuite, eh bien, il n'y aurait plus de réel. Vous allez voir que, pas à pas, on va approcher ça. Alors, je rappelle, comme Lacan le fait dans ce chapitre, je repars donc du fantasme des deux girafes. Et il montre comment, donc, l'introduction d'une image par ce fantasme, par ce petit jeu qu'opère Hans avec son dessin des girafes qu'il chiffonne, pour lequel il s'assied dessus et dont il dit qu'il s'accapare la mer, s'introduit donc là un jeu proprement symbolique. Donc il passe de l'image au symbole. L'enfant, dit Lacan, phallicise tout entier la mer. Le dessin de la girafe est donc une première façon de symboliser la mer phallicisée. L'enfant la chiffonne, s'assied dessus et prend possession de celle-ci. Ce progrès de l'imaginaire au symbolique constitue une organisation de l'imaginaire en mythe pour Hans. Alors nous reviendrons justement sur la question de « mais qu'est-ce qu'un mythe ?» Ceci est donc sur la voie de constituer une organisation donc de l'imaginaire en mythe. Toute sa cure, c'est ça. Donc l'analyse de Hans sera une série de constructions mythiques qui permet une transposition symbolique. Afin de franchir donc ce passage d'une certaine béance ou carence, alors je trouve intéressant que Lacan mette ces deux termes, il dit béance ou carence, c'est pas la même chose, parce qu'on peut penser qu'une carence suppose qu'il manque quelque chose qu'on pourrait rattraper, tandis qu'une béance, pas. Et je trouve qu'il faut vraiment insister sur la question de la béance. Béance, qui est source de l'angoisse, et dans lequel Hans introduit, pour tenter de l'appréhender, le cheval qui lui fait peur, sa phobie. Ainsi, qu'est-ce qui est là en jeu dans cette béance ? Le réel de la jouissance sexuelle, mais tout simplement, même d'une manière beaucoup plus générale, le réel de la jouissance. Il ne peut l'assimiler, tout ça le déborde. Alors je vais faire attention justement dans ces deux chapitres à, comme ça, c'est les termes que Lacan utilise, parce que j'ai trouvé formidable qu'on y trouve vraiment quelque chose d'autre que simplement ce qu'on dit toujours du premier Lacan, qui est que, après tout, tout l'imaginaire et le réel pourraient passer au symbolique dans la cure. Je pense que le cas du petit Hans nous permet justement d'appréhender les choses autrement. C'est essentiel. Et donc, j'ai été un peu... J'ai eu l'attention attirée par tous ces petits moments où on entrevoit ça dans la façon de appréhender ces chapitres, dans la façon dont Lacan appréhende la cure du petit Hans. Alors, une série de questions se posent à l'entrée de ces deux chapitres, que je suppose que vous avez lus, je les reprends. Hein ? Ces questions donc, nous font entrer dans le cœur du travail analytique du petit Hans. Alors, quelles sont ces questions et comment Lacan les formule ? Comment, alors d'abord, première question, comment dégager des types relationnels qui seraient d'un usage analytique dans ce travail ? Une autre question, comment dégager et faire la différence entre les relations imaginaires, réel et symbolique du sujet. Comment est-ce qu'on fait la différence ? Comment Hans peut-il faire l'assomption du phallus imaginaire en jeu entre lui et sa mère ? Question. Comment peut-il donc se dégager d'être le phallus qui manque à la mère? Je suppose que ce sont des choses maintenant qui commencent vraiment à se répéter, puisque tous les chapitres précédents ont vraiment insisté déjà là-dessus. Mais ici, on va arriver dans le concret d'une cure d'enfant. Comment donc peut-il se dégager d'être le phallus qui manque à la mère pour enfin en avoir l'usage pour plus tard? Y arrive-t-il? Alors, en avoir usage pour plus tard, c'est moi qui ajoute cette phrase. Lacan ne le dit pas. C'est même en avoir usage pour plus tard. Alors, est-ce que Lacan, Philippe, est-ce que Lacan le dit quelque part? En tout cas, peut-être dans le séminaire 5. En tout cas, c'est dégagé par Miller dans son commentaire d'introduction du séminaire 5 qui apparaît dans un petit fascicule. Mais tout ça est le pas à pas du travail de Lacan et d'élaboration de Lacan. De cette époque. Alors, on va voir que justement, Hans, dans sa vie, va être en difficulté avec ça, mais qui ne l'est pas en même temps. Par quelle voie donc détournée le petit Hans s'engage dans les conversations avec son père? Alors, ce qui est typique, je suppose que Béatrice Brault vous a présenté ça par rapport à la cure du petit Hans. Ce qui est typique ici, dans ce cas, c'est que c'est quand même une cure qui est menée par le père, guidée par Freud. Donc on va voir que Hans va rencontrer le père, façon de parler, Freud, parce que de père, son père, c'est pas vraiment, c'est pas un père qui tient la route. Pour pouvoir, même si, on va voir qu'il est surtout un père imaginaire. C'est ce que Lacan développe surtout dans ces deux chapitres. Et donc, avec Freud derrière, qui est plus en position de père imaginaire et symbolique, on va voir que Freud... Alors, ça, j'ai été surprise de relire ça comme ça. C'est que Lacan dira que Freud ne peut pas être plus le père imaginaire dans son intervention quand il le fait auprès du petit ange, je vous expliquerai ça. Mais derrière ça, bien sûr, ça soutient l'ordre symbolique pour que le travail puisse se faire dans les conversations avec le père. Conversation de Hans avec son père. Alors, donc, dans les conversations avec son père, pas à pas, vont se construire une série de mythes. Alors, que voit-on se produire à ciel ouvert, on pourrait dire, dans cette analyse? Alors, je vous cite Lacan, page 274. La transition qui fait passer l'enfant de la dialectique imaginaire du jeu intersubjectif avec la mère autour du phallus au jeu de la castration dans le rapport avec le père. Donc, ce qui doit s'opérer, c'est cette dialectique imaginaire du jeu d'avec la mère, du phallus, autour du phallus, doit s'opérer quelque chose de la castration avec le père, dans le travail avec le père. Quelque chose d'une symbolisation de la castration. On va voir que cette castration, eh bien justement, elle va être... Je pense qu'on peut dire ça, on peut donner ça comme indication, qu'elle ne sera jamais véritablement symbolique. Elle restera pour le petit Hans. Le Hans va rester encombré avec la question de la castration imaginaire. Bon. Donc, le passage se fait donc par une série de transitions qui sont précisément ce que Lacan appelle donc les mythes forgés par le petit Hans. Donc, ceci passe de l'imaginaire au symbolique pour tenter de cerner un réel. C'est ce que Lacan dira à la fin du chapitre 17. Alors, donc on a le point de départ de la cure et ce dont il faudrait arriver. Alors, dans l'histoire du petit Hans, nous partons donc du pénis réel dans le jeu enfant-mère. Et à la fin, donc, ce pénis réel trouve à se loger d'une façon suffisante, dit Lacan. non pas nécessaire. Disons que suffisante vient dire le petit 1 sera un peu allégé avec cette question. Ça sera suffisant en tout cas pour traiter la phobie. D'ailleurs, Lacan dira que le complexe d'Œdipe n'arrive peut-être pas là à une solution satisfaisante dans cette cure. Elle suffit simplement donc à le libérer, le petit 1, de l'intervention de l'élément phobique. Il n'a plus besoin de la peur du cheval. Elle rend non nécessaire la conjonction de l'imaginaire avec l'angoisse qui s'appelle la phobie. Elle aboutit à la réduction de celle-ci, donc la cure. D'ailleurs, dans ce premier chapitre-là, que je vous expose aujourd'hui, je ne sais pas si j'en fais même un commentaire, je trouve que j'expose ce que Lacan tente d'élaborer. Il reprend un peu donc ce qui apparaît dans l'épilogue du cas de Freud, hein, quand Freud rencontre Hans à 19 ans. Hein, alors, ce qui m'a intéressé, c'est que Hans ne se souvient plus de rien. Il ne se souvient pas d'avoir rencontré Freud, il ne se souvient pas de ce moment, il ne se souvient pas de la peur des chevaux, il ne se souvient de rien. Alors Lacan dit quelque chose, il me semble, d'important sur cette amnésie, qu'il reprend d'ailleurs de Freud et que Freud compare à l'amnésie portée sur le rêve. Donc Freud explique que comment se fait-il que, on peut être amnésique de ses rêves, même si on s'est réveillé la nuit, qu'on en a même fait une interprétation, c'est typique. Tout à coup, on voudrait raconter le rêve, on voudrait en donner l'interprétation, plus rien. Amnésie complète. Ça se retrouve très souvent dans la cure, ça. Eh bien, dit-il, la cure de Hans porte à ça. Alors, je trouve ça très intéressant. Lacan commente. Il dit, donc, dans la cure de Hans, il ne s'agit pas, dans l'analyse de Hans, ça n'a pas à voir avec l'intégration ou la réintégration par le sujet de son histoire, qui s'accomplit dans une cure avec levée de l'amnésie et maintien des éléments conquis. Eh bien, il dit la cure du petit Hans. Eh bien, elle n'a pas à voir avec ça. Alors, c'est quoi cette cure? On peut se poser la question. Hein? Donc, dans une cure, habituellement, vous vous ressouvenez, et puis, bien sûr, il y a une série de choses que vous oubliez aussi, sur lesquelles vous remettez une amnésie. Mais il y a des éléments essentiels qui sont réintégrés autrement et qui trament une nouvelle histoire. On entend ça très bien dans les témoignages de ceux qui peuvent témoigner de la fin de leur cure, dans la procédure qu'on appelle le LAPAS. Mais bon, tout ça, je ne vais pas. Mais c'est très important. Et donc, Lacan dit, voilà, ça n'a pas à voir. En tout cas, avec ça, la cure du petit Hans. Ça n'est pas une affaire de réintégrer des moments d'histoire qui feraient que l'amnésie serait levée et qu'on ait reconquis des éléments. Il s'agit pour Hans d'autre chose. Il s'agit, dit Lacan, d'une activité très spéciale à la limite de l'imaginaire et du symbolique, qui est du même ordre que celle de rêve, du rêve lui-même. En somme, la cure de Hans, ça n'est qu'un rêve. Enfin, il la rate, il lui donne la même structure. La cure de Hans serait-elle un rêve éveillé? Une chose, ces conversations avec le père, c'est parce que, en somme, on en a le matériel, parce que le père a écrit a écrit à Freud, a écrit tous les éléments, a écrit toutes les conversations. Et le petit Hans lui demandait, papa, écris ça, je vais vous lire des passages après. Hein, écris encore ça pour le professeur. Mais lui n'en se souviendra absolument que d'elle. Donc, dans la mystification de Hans, dans toute l'observation, il y a un inassimilable. Ces fantasmes, ces jeux, tout ça sont de l'ordre. On peut les faire équivaloir, dit Lacan. On peut très bien faire équivaloir. Les fantasmes, ils équivalent au jeu, ils équivalent à toutes les petites conversations avec le père, et tout ça, ça équivaut au rêve lui-même. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est vraiment dans le chapitre. Si vous l'avez lu attentivement, vous verrez. Voilà. Alors, Hans, eh bien, quand il rencontre Freud à 19 ans, eh bien, qu'est-ce qui lui reste ? Simplement que ses parents se sont séparés. Déjà, d'ailleurs, à l'époque du petit Hans, déjà, ils étaient séparés, puisqu'ils n'en avaient déjà plus rien à faire ensemble. Tout le problème est là, d'ailleurs, pour le petit Hans. Et ça n'a d'ailleurs pas opéré de catastrophe pour lui, la séparation de ses parents. C'est pas ça. Et ce qui lui reste, seul lui reste un regret, une blessure, son rapport à sa sœur, qui est maintenant séparée de lui. Cet objet idéalisé, phallicisé par la sœur. C'est d'ailleurs qui marquera sa vie amoureuse, dit Lacan. Tout donc n'a pas été bouclé, la relation d'objet à quoi elle aboutit n'est pas satisfaisante. Alors revenons à la cure de Hans. Donc, premièrement d'abord, donc il y a d'abord toute cette... dans la cure de Hans, je vais prendre plusieurs... j'ai reconstruit une série de points. Donc, premièrement, donc, il y a d'abord la dialectique imaginaire du jeu intersubjectif avec la mère autour du phallus. C'est-à-dire comment l'objet phallique s'introduit entre la mère et l'enfant, à une étape essentielle, cruciale dans la relation mère-enfant. Tout part du jeu entre Hans et sa mère. Voir, ne pas voir... guetter le phallus, épier où il est, etc. On voit que c'est un jeu, c'est déjà un progrès que d'être le phallus qui manque à la mère. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose déjà là d'une dialectique imaginaire. On voit que le phallus, ce qu'on appelle le phallus imaginaire, est entre l'enfant et la mère. C'est essentiel. Parce qu'autrement, si l'enfant n'a pas accès à cette étape, eh bien, cette étape, ce n'est pas des étapes chronologiques, mais si l'enfant n'y a pas accès, eh bien, tout simplement, il est l'objet de la mère. Il sature son manque. Et du coup, il n'est pas phallicisé. Hein, c'est dans le cas de la psychose. Voilà, c'est ce qu'on rencontre. C'est... voilà, donc l'enfant est réduit du coup à être l'objet de la mère. Donc ce n'est pas duel ce qui se passe entre la mère et l'enfant. Il y a déjà un tiers. Mais ce tiers, pour opérer convenablement ce phallus imaginaire, il faut qu'il soit soutenu par une instance symbolique, qu'on dit être le père. C'est une instance symbolique, simplement. Ce n'est pas... le père de la réalité, c'est une instance. Donc Hans n'est pas privé réellement, parce que s'il était privé réellement, nous serions dans la psychose, il n'est pas privé réellement, Et d'ailleurs, il en joue, hein, voir, pas voir, caché, voilé, dévoilé, etc. Alors, ça, c'est le premier temps. Hein, c'est les animaux qui ont des grands pipis, des bon, est-ce qu'ils auront un fait pipi ou non pas un fait pipi, toutes ces discussions. Et puis, quand même, hein, entre ceux qui se masturbent devant la mère qui lui dit si tu. Hein, je vais te le. Tout ça fait partie de cette dimension du phallus imaginaire qui est entre la mère et l'enfant. J'ai pas été relire bon, tout ça parce que je suppose qu'on en a déjà parlé. Bon. Alors, dans le fantasme, alors, un deuxième moment. Donc, je vais découper une série de moments importants à partir des deux chapitres dans la cure de Hans. Deuxième moment important, c'est le fantasme des deux girafes. Parce que là, on a l'illustration d'un premier passage de l'imaginaire au symbolique. Hein, donc l'image de la mère, la petite girafe n'est qu'un morceau de papier, dira Lacan, une girafe chiffonnée sur laquelle il s'assoit, boule de papier, cette boule de papier est un symbole. C'est un élément mobilisable, c'est ça qui compte. Cela ne suffit pas, Hans serait guéri de sa phobie s'il avait été suffisant, dit Lacan, ce moment de symbolisation. Ça ne suffit pas, hein, mais il montre par cet acte de quoi elle retourne dans l'opération, de ce qui a lieu d'opérer pour Hans dans sa cure. Alors, maintenant, je vais me centrer plus sur la question de, mais alors, sur la question du père. Ce qui me frappe quand on, qui est l'agent quand même de celui qui aurait à tenir cette fonction symbolique. Eh bien, quand vous reprenez le tableau, le fameux tableau qu'il y a au début du chapitre 16. Eh bien, si vous regardez bien, nulle part, il est indiqué le père symbolique dans ce tableau. J'y avais jamais fait trop attention, mais je me dis, mais où il est le père symbolique là-dedans? On a le père réel et on a le père imaginaire, comme agent qui opère. Enfin, qui... Donc, c'est le père réel et le père imaginaire. Alors, ça, on peut le repérer dans le cas du petit Hans, le père imaginaire et le père réel. Le père symbolique, eh bien, c'est ce qui permet l'opération de symbolisation, qui permet que la castration peut devenir symbolique et qui fait que le phallus peut se symboliser. Alors là, le père devient un agent de la symbolisation de la castration. Le père réel est l'agent de la symbolisation de la castration. Le père imaginaire est l'agent du phallus symbolique. C'est-à-dire que c'est lui qui introduit quelque chose du phallus symbolique. Alors, vous savez, c'est très difficile. Ne vous inquiétez pas. Quand on dit castration symbolique et phallus symbolique, ce sont des concepts qui sont difficiles à saisir et à préciser dans l'enseignement de Lacan. Phallus symbolique, c'est sûr, il apparaît là dans le tableau, mais c'est très difficile de cerner ce que c'est. Bon, je dis tout de suite, hein, ce tableau, il est là comme pour pouvoir mettre quelques repères. Alors, l'agent, qui est-ce qui opère les choses ? À quoi on a affaire comme manque, hein, et on opère sur quel objet. Enfin, moi, simplement, j'ai repéré qui est le père symbolique et pas dans ce tableau. Voilà. Alors, donc, nous avons affaire, surtout, donc, avec le petit Hans et la position, d'ailleurs, et la position, en tout cas dans la parole de Freud, je vais vous le montrer ensuite, on a affaire au père imaginaire. Alors, Lacan dit ceci par rapport imaginaire, par rapport au père imaginaire. Alors, c'est très paradoxal. Il dit du père imaginaire, c'est celui qui pose l'ordre du monde. Ben, pourquoi ce n'est pas le père symbolique qui pose l'ordre du monde ? À savoir que tout le monde n'a pas le phallus, qu'il en est privé réellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi pour le petit Hans dans sa cure ? Eh bien, pour le petit Hans dans sa cure, le père imaginaire, c'est le bon Dieu, dit Lacan. Ainsi, Lacan va nous montrer deux moments importants et essentiels autour de la rencontre de Hans, de son père avec Freud. Le bon Dieu, dira Lacan, on ne peut pas plus comme père imaginaire. Je ne vous demande pas d'aller lire ça parce que ça a attiré mon attention. Donc Lacan, cette remarque très importante, Lacan nous avertit de ne pas confondre le père imaginaire et symbolique. Donc Freud, en s'adressant à Hans, prend la position, et je vais vous lire ensuite, je vais revenir là-dessus, donc on va reprendre la fameuse séance, la fameuse rencontre, la unique rencontre de Hans avec Freud, Hans le père et Freud. On va la lire après. En tout cas, voilà ce que Lacan veut démontrer. Donc, Freud, en s'adressant à Hans, prend la position que donc je pourrais appeler divine, dit Lacan. C'est de Sinaï qui parle, Freud, au jeune Hans, dit-il. Se poser comme le fait Freud, comme le maître absolu, relève non pas du père symbolique, mais du père imaginaire, dit Lacan. Alors, que veut dire que ce doit être le père imaginaire qui pose l'ordre du monde ? Bien sûr, on voit que derrière cela, il y a le symbolique qui doit être là, qui est là. La position du père symbolique reste voilée, dit Lacan. Cachée derrière. Donc pour Hans, Freud, c'est le bon Dieu. Hans en parle d'une façon d'ailleurs très jolie deux fois, le 15 mars et après avoir rencontré Freud. Donc le 15 mars, le père, donc sous conseil de Freud, donne quelques éclaircissements qui vont d'ailleurs améliorer la situation de la phobie. Une petite amélioration passagère. Hans peut sortir et l'attribue au bon Dieu. Alors comment ? Eh bien, il dit tout simplement à son père, « Ah bien, aujourd'hui, il trouve qu'il y a moins de chevaux, qu'il y a moins de voitures. Comme c'est gentil, dit-il à son père, comme c'est gentil au bon Dieu d'avoir mis moins de voitures aujourd'hui, dit Hans. » Le bon Dieu est là une référence pour lui, qui rassure. Référence imaginaire. Alors, Lacan a dégagé deux recommandations faites au père avant qu'il ne rencontre réellement Freud. Rencontre du 30 mars, Hans. Donc il a dit, Freud a dit au père d'expliquer à l'enfant que cette phobie est une histoire, est une bêtise, et que la bêtise est liée à son désir d'approcher la mère. Alors, bien sûr, c'est une tentative de lever la culpabilité en disant « c'est naturel qu'il a bien raison de qu'il y a à maîtriser quelque chose. » Donc, c'est quoi « c'est naturel » ? C'est-à-dire son désir pour la mère. Son désir pour la mère, eh bien, vous pouvez lui dire « c'est naturel », dit Freud au père. Tout ça pour minimiser un peu la culpabilité. Vous lui direz aussi que ce phallus désiré n'existe pas. Des fois. Lacan dira, comme intervention du père imaginaire, il n'y a pas mieux de la place de Freud. Alors, d'ailleurs, donc vous savez, bon, je peux pas relire tout le. J'espère que tout le monde a lu le cas du petit Hans, parce que je peux pas. Je vais relire des passages, mais je ne vais pas lire tout ce qui est avant. Mais je vais quand même reprendre ce que dit Lacan, donc, de conséquences, somme la conséquence de ces interventions du père. Eh bien, ça n'est pas n'importe quoi. C'est que ça va faire consister le phallus, et Hans va d'ailleurs se mettre à fantasmer l'histoire suivante. Par exemple, qu'il a vu sa mère en même temps nue et en chemise. Le père va répondre, enfin, elle ne peut pas être en même temps nue et en chemise. Il faut qu'elle soit ou nue ou en chemise. Le père, lui, est... Non, mais c'est comme ça tout le temps dans le... Moi, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, Lacan dira quelque chose. Alors que, bien sûr, elle peut bien être nue sous sa chemise. Mais le père ne saisit pas. Il est d'accord. Deuxième chose, par exemple, ce que ça produit, eh bien, quand il tente de faire le lien entre le cheval, la phobie et la masturbation et l'interdit de celle-ci, eh bien, ça va avoir conséquence pour l'enfant qui avait peur des chevaux, qu'il est obligé de les regarder. Ce qui était avant permis devient obligatoire. Donc ces interventions qui sont guidées par Freud, que le père maladroitement refile au fils, eh bien, ça va faire en sorte d'aggraver les choses. C'est-à-dire qu'en plus, il est obligé de regarder les chevaux. Ce qui est permis devient obligatoire. Alors maintenant je vais vous lire la rencontre donc du petit Hans avec Freud. Donc c'est à la page, elle a lieu donc le 30 mars et donc c'est la page 119 de l'édition des 5 psychanalyses chez le PEUF. Donc cet après-midi-là, le père et le fils vinrent me voir à ma consultation. Freud dit, je connaissais déjà le drôle de petit bonhomme, et avec toute son assurance, il était si gentil que j'avais chaque fois eu plaisir à le voir. Je ne sais s'il se souvenait de moi, mais il se comporta de façon irréprochable, et comme un membre tout à fait raisonnable de la société humaine, dit Freud. La consultation fut courte. Le père commença par dire que malgré tous les éclaircissements donnés à Hans, sa peur des chevaux n'avait pas diminué. Nous dûmes aussi convenir que les rapports étaient fort peu nombreux entre les chevaux dont il avait peur et les aspirations de tendresse avec sa mère qui s'étaient révélées. Certains détails que j'appris alors, qu'il était particulièrement gêné parce que les chevaux ont devant les yeux et par le noir qui ont autour de la bouche. Mais comme je regardais le père et le fils tous deux assis devant moi, dit Freud, tout en écoutant la description par Hans de ses chevaux d'angoisse, une nouvelle partie de la solution du problème me vint tout à coup à l'esprit. Partie dont je compris qu'elle put justement échapper au père. Je demandai à Hans, sur un ton de plaisanterie, si ses chevaux portaient binocle, ce qu'il nia. Puis si son père portait un binocle, ce qu'il nia aussi contre toute évidence. Je lui demandai si par le noir autour de la bouche, il voulait dire la moustache. Donc vous voyez bien l'idée de Freud hein, qui est derrière. Et je lui révélai alors qu'il avait peur de son père, justement parce qu'il aimait tellement sa mère. Il devait en effet penser que son père lui en voulait de cela. Mais ce n'était pas vrai, son père l'aimait tout de même. Il pouvait sans aucune crainte tout lui avouer. Voilà comment Freud parle, c'est du même ordre que ce que le père d'ailleurs. Mais il y a une autre phrase, bien avant, et il rajoute ceci, c'est cette phrase-là qui est importante, « Bien avant qu'il ne vînt au monde, j'avais déjà su qu'un petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu'il serait par suite forcé d'avoir peur de son père. Et je l'avais annoncé à son père. « Pourquoi crois-tu donc, m'interrompit alors le petit Hans, que je t'en veuille, t'ai-je jamais grondé ou battu ?» dit le père. « Oh oui, tu m'as battu, corrigea Hans. »« Ce n'est pas vrai, dit le père. Quand ça ?»« Ce matin, répondit le petit garçon. » Et son père se rappela que Hans, tout à fait à l'improviste, lui avait donné un coup de tête dans le ventre, ce sur quoi il lui avait rendu, à la façon d'un réflexe, un coup avec la main. Qu'il n'ait pas enregistré ce détail dans l'ensemble de la névrose était curieux, mais il le comprit maintenant comme exprimant la disposition hostile de l'enfant contre lui. Peut-être aussi manifestant le besoin d'être puni. En revenant de chez moi, voilà, ça c'est la consultation chez Freud. En revenant de chez moi, Hans se demande à son père, « Le professeur parle-t-il avec le bon Dieu pour qu'il puisse savoir tout ça d'avance ?» Alors Freud rajoute, « Je serais extraordinairement fier de cette attestation de la bouche d'un enfant, si je l'avais moi-même provoqué par ma vantardise enjouée. » En tout cas, à partir de cette consultation, dit Freud, la possibilité lui était maintenant donnée de mettre à jour ses productions inconscientes et procéder à la liquidation de sa phobie. Suit alors le donc voilà, et donc c'est de cela que Lacan dira, il n'y a pas plus de voilà ce qu'il dit être le père imaginaire. Freud est en position de père imaginaire. En position, sauf que c'est parce qu'il y a Freud derrière le père que quelque chose peut se symboliser. Alors, une autre chose qui m'a impressionnée dans un détail encore dans le... Donc la position du père symbolique, celle que l'on peut repérer dans l'articulation, reste voilée. La façon de se poser donc comme le fait Freud en maître absolu relève donc du père imaginaire, dit Lacan, et non pas du père symbolique. Ça a comme conséquence ceci, je trouve ça très intéressant, dit Lacan. Donc ça a comme conséquence que dans cette cure du petit Hans, il y a une absence de phénomène de transfert. Et du même coup, deux phénomènes de répétition. On retrouve avec la... ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est qu'il n'y a pas une réintégration des éléments d'histoire, etc. Donc, ça n'est pas une cure qui est centrée sur la répétition. D'ailleurs, si vous lisez cette cure, il n'y a rien qui se répète. Il y a quelque chose comme ça qui avance en circuit, mais il n'y a rien qui se répète. Et je trouve ça très intéressant de repérer ça. Il dit aussi « absence de phénomène de transfert ». Alors, je ne sais pas trop ce que Lacan veut dire par « phénomène de transfert ». Parce qu'on peut quand même penser que le sujet supposé savoir pour Hans, c'est quand même le professeur Freud. Mais Lacan ne le dit pas. Ça, c'est des... Peut-être il le dit plus loin dans le séminaire, je ne sais pas. Ou c'est une interprétation de la lecture qu'on fait de Lacan, dire ça. Lui, il dit pas de phénomène de transfert. Et pas de phénomène de répétition. Qui serait le mouvement de la cure normale, normalement. Il n'y a qu'un relevé à l'état pur du fonctionnement des fantasmes, dit Lacan. Ce qui demande d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'un certain nombre de circuits qui soient parcourus pour que la fonction de symbolisation de l'imaginaire soit efficace, efficacement satisfaite, entre guillemets. Donc il faut une série de constructions mythiques qui sont de véritables labyrinthes, dit Lacan, accentué par les interventions en plus du père de Hans. Donc ces constructions de Hans, il faut les prendre du côté d'une série de constructions de petits mythes. Qu'est-ce que ça veut dire? Lacan, il dit, il ne faut pas trop vite comprendre. Plutôt que de trop vite plaquer certains termes à tout faire, c'est le complexe de ceci, c'est le complexe de cela, c'est la mère, c'est le père. Eh bien, il faut surtout se dégager de trop vite comprendre. Hein, ou encore, certains éléments en jeu seraient alors ceci représente la mère, ceci le père, ceci le pénis. Lacan dit, ce qui est essentiel, c'est qu'il s'agit de voir comment les divers éléments, le cheval par exemple, n'est concevable que dans sa relation à un certain nombre d'autres éléments également. Le cheval ne correspond pas à une signification univoque. Il est d'abord la mère, on vous l'a déjà dit, et à la fin le père, mais il est aussi Hans lui-même. Ou encore... Je pense que Béatrice Brault l'avait déjà dit, puisque ça a été repris par Pascal, mais aussi Hans lui-même, ou encore c'est plus ce que j'ai écrit. Bon, ça fait rien. Donc le cheval, on voit bien qu'il peut prendre toutes les... Bon. Ou encore le porteur du pénis. Bien sûr, le cheval, il peut aussi la baignoire, c'est aussi la mer, c'est le derrière du petit Hans, etc. Il faut donc aborder les mythes de Hans comme l'a fait Lévi-Strauss dans la structure des mythes. En établissant des successions dans un sens et dans un autre. D'une manière horizontale et verticale. Lacan dit ça. Maintenant, si on devait faire ce travail, ça serait difficile, je crois. Donc le mythe, dit Lacan, se lit dans un sens, mais son sens ou sa compréhension apparaît à la superposition des éléments analogiques, venant sous formes diverses, à chaque fois transformées. Afin de partir d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, afin que ce qui apparaît irréductible et réel puisse s'intégrer dans le système via l'imaginaire. D'accord ? Donc c'est une façon d'aborder pas à pas, par le déplacement d'une série d'éléments qui se conjoignent, qui sont horizontalement et verticalement, que quelque chose, mais ça c'est la structure des mythes de Lévi-Strauss, la façon dont il a fait, il y a son fameux tableau, comme vous allez voir dans son texte sur la structure des mythes, il y a ce fameux tableau sur l'Œdipe, mais il faut, bon, je ne comprends pas ce tableau, c'est pas, il faudrait en faire une étude, bon. Mais en tout cas, il montre que ce qui est important, la règle d'or, dira-t-il, c'est que ça n'est jamais univoque. C'est un système. On on part du pénis réel pour Hans. Et il faut arriver à ce qu'il puisse se loger quelque part, pour que Hans puisse poursuivre sa vie sans angoisse. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui doit être en même temps déplacé. C'est donc pas sans une permutation signifiante. Le jeu fondamental du signifiant, c'est la permutation. C'est toujours qu'un signifiant renvoie à un autre. La règle d'or, donc, ce qui doit guider la cure, c'est le signifiant qui renvoie à un autre. La cure de Hans est donc un grand jeu mythique, un formidable jeu mythique, qui se comporte sans aucune espèce de régression. Hein, donc je l'ai déjà dit. Il n'y a pas qu'un seul mythe, mais une série de mythes. Donc il permet de passer d'une appréhension phallique de la relation à la mère à une appréhension castrée des rapports à l'ensemble du couple. Alors, vous avez tous ces termes, hein. Il y a par exemple enraciné, perforé, vissé, tenaillé. Bon, c'est quand même formidable que ce petit enfant de 5 ans ait autant de possibilités signifiantes à sa disposition. En fait. Hein, bon, c'est un enfant quand même remarquable. Et donc la création imaginaire de Hans va toujours aller en se développant, à mesure des interventions du père, même si elles sont maladroites, même si elles sont univoques, même si... Alors, qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui insiste ? Même si elles sont adroites ou maladroites, ça ne vient pas tarir, mais stimuler ses productions. Au contraire, ça lui fait passer, bon, ça lui fait faire des tas de détours. Il y a donc les interventions et les interprétations du père et la façon dont Hans y répond. Alors le père, lui, vous allez voir, on va lire quelques passages, parce que c'est très drôle en même temps. Le père tente, lui, toujours d'introduire une signification univoque. Il voit toujours les sens, il voit toujours les choses dans un seul sens. Et le petit Hans va tout le temps contourner, détourner ça. Hans y répond toujours à côté. Série de détours, mais aussi il se moque ou encore il défait la signification que le père donne. Ou encore il appelle à l'intervention d'un père réel. Ben, je fais ça et je dis ça, et pourquoi tu ne me frappes pas ? Et le père n'entend pas. Ça va, je ne vais pas développer ça, je me pensais, mais parce que je crois que ça vient dans les chapitres suivants. La question du père réel, qui n'opère pas. Alors, donc après le 30 mars, après son entrevue avec Freud, Hans reprend courage. Et la phobie a pris toute une ampleur, dit Lacan. Elle s'enrichit de plus en plus de détails. Alors, je vais vous lire. On va lire un peu. Comment ça... J'essaie de choisir pour pas être... que c'est tellement... Tout est intéressant. Hein. Alors. Si on reprend simplement la petite conversation au début, le 3 avril. Donc le 3 avril, Hans arrive de bonne heure dans le lit des parents. Tandis que les jours précédents, il n'y était plus venu et semblait même fier de s'être retenu. Le père demande « Pourquoi donc es-tu venu aujourd'hui, Hans ? Quand je n'ai plus peur, je ne viendrai plus. Ainsi, tu viens me trouver parce que tu as peur, dit le père. Quand je ne suis pas avec toi, j'ai peur. Quand je ne suis pas au lit avec toi, alors j'ai peur. Quand je n'aurai plus peur, je ne viendrai plus. » Vous voyez la logique de Hans. Tu as peur quand tu es dans ton lit le matin? Et c'est pour ça que tu viens me trouver? Oui, dit Hans. Pourquoi m'as-tu dit que j'aime maman et que c'est pour ça que j'ai peur, quand c'est toi que j'aime? Vois comment il rentre dans l'interprétation du père. Ainsi, quand tu es seul et anxieux à mon sujet, tu viens me trouver, dit le père. Quand tu n'es pas là, j'ai peur que tu ne viennes pas à la maison. Le père, t'ai-je jamais menacé de ne pas revenir à la maison? Toi pas, mais maman m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. Elle a dit ça parce que tu étais méchant. Oui, tu as donc peur que je ne m'en aille parce que tu as été méchant et c'est pourquoi tu viens me trouver. Comme je me lève de table après le petit déjeuner, Hans se dit « Papa, reste, ne t'en va pas au galop !» Je suis frappée qu'il dise « au galop » au lieu de « en courant » et je réplique « Oh, tu as peur que le cheval ne te quitte !» Sur quoi Hans rit. Alors, c'est comme ça, voilà, ça c'est un exemple de... Alors, Lacan va relever justement l'humour du petit Hans. Hein, Hans rit. Il peut comme ça mener son père à un endroit et puis se mettre à rire. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Attendez, faut que je les retrouve. Moi, dès que je dois lire le cas du petit Hans, je me perds. Hein. Ensuite... J'aurais dû cocher vraiment les passages. Alors ici, voilà, j'avais coché. Il y a toutes les conversations sur la bêtise, le cheval qui mord, etc. Mais alors, il y a aussi le cheval qui tombe, qui fait peur. Hans a peur du cheval qui mord, hein, du cheval aussi qui tombe. Alors, voilà comment le père prend ça. Donc, où donc as-tu été ce jour-là avec maman? Tomber et mordre, hein, donc voilà. Donc, la bêtise était cette idée qu'un cheval allait te mordre. Et tu dis maintenant que tu as peur qu'un cheval ne vint à tomber. Hans, tomber et mordre, dit-il. Hans, parce que le cheval a fait comme ça avec les pieds. Et il se couche par terre et il fait du charivari avec ses pieds. J'ai eu peur, dit-il, parce qu'il a fait du charivari avec ses pieds. Où donc as-tu été ce jour-là avec maman? Au café, j'étais acheté le gilet, puis chez le pâtissier, puis à la maison le soir, nous sommes rentrés. Le cheval, alors le père, dit à Hans. Le cheval était-il mort quand il est tombé? Hans dit oui. Alors le père dit, ben, comment le sais-tu, Hans? Parce que je l'ai vu. Et il rit. Non, il n'était pas mort, dit-il. Peut-être as-tu pensé qu'il était mort, dit le père. Non, sûrement pas. Je l'ai dit seulement pour rire. Son expression était cependant sérieuse en le disant. Donc on voit comment tout le temps, des exemples comme ça, il y en a. Alors, la suite, hein. Encore quelques donc questions. Alors, le père dit, quand le cheval de l'omnibus est tombé, de quelle couleur était-il? Blanc, roux, brun ou gris? Hans. Noir. Les deux chevaux étaient noirs. Était-il grand ou petit? Donc, vous voyez la référence. Grand, le père. Gros ou maigre? Gros, très grand et gros. Quand le cheval est tombé, as-tu pensé à ton papa? Peut-être, oui, c'est possible. Alors, le plus. Alors, l'exemple aussi qui est très drôle, c'est l'histoire où quand la mère achète une culotte jaune, un peu plus loin. Donc, c'est toutes des journées qui. Tous les jours qui suivent. Hein, donc, on est maintenant. Oui, ça se passe là le 9 avril. Alors, je rentrais chez nous et je parlais avec ma femme qui avait fait diverses emplettes, était en train de me les montrer. Parmi celles-ci, une culotte de dame jaune. Anne se fait à plusieurs reprises « Fouf !» et se jette par terre et crache. Ma femme dit qu'il a déjà fait cela à diverses reprises en voyant la culotte. Ben, je demande donc le père, je demande « Pourquoi fais-tu fi ?» À cause de la culotte, dit Hans. Pourquoi? À cause de la couleur? Parce qu'elle est jaune et rappelle pipi ou l'oumpf, caca. Hans, l'oumpf n'est pas jaune, mais blanc ou noir. Et aussitôt, dit, est-ce facile de faire l'oumpf quand on mange du fromage? Le père dit oui, Hans. C'est pour ça que tu vas toujours dès le matin faire l'oumpf. Je voudrais tant manger de fromage sur mon pain beurré. Alors comme ça, toutes les conversations. Après le déjeuner, je dis, dit le père, nous allons écrire au professeur. Et Hans se dicte. En voyant la culotte jaune, j'ai dit « fi !» Et j'ai craché et je me suis jetée par terre. Et j'ai fermé les yeux et n'ai pas regardé. Alors le père écrit « Pourquoi ?» Hans. « Parce que j'ai vu la culotte jaune et avec la culotte noire, j'ai fait à peu près la même chose. La culotte noire est aussi une culotte comme ça. Seulement, elle était noire. Tu sais, je suis content quand je peux écrire au professeur. Je suis toujours content. » Alors, on voit que le fait de devoir écrire, comment lui continue à inventer son truc. Pourquoi as-tu dit « fi » ? Quelque chose te dégoûtait, dit le père. Oui, parce que j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais devoir faire l'oumpf. Le père, pourquoi? Ben, je ne sais pas, dit Hans. Moi, quand as-tu vu la culotte noire? Un jour, Anna était depuis le temps à la maison, chez maman. Elle venait de rapporter la culotte à la maison après de l'avoir achetée. Ceci t'a-t-il aussi dégoûté? Oui, dit Hans. As-tu vu maman porter une culotte comme ça? Dit le père. Non. Le père, quand elle s'habillait, alors on voit comment il pousse, hein, Hans, quand elle a acheté la culotte jaune, je l'avais déjà vue une fois. Elle porte aujourd'hui aussi la noire, c'est vrai. Et j'ai vu ce matin quand elle l'a enlevée. Alors vous voyez, le père, quoi? Elle a ôté ce matin la culotte noire? Hans, ce matin en sortant, elle a ôté la culotte noire et en rentrant, elle l'a remise. Alors le père questionne sa femme. Ceci me semble absurde. Elle dit aussi que c'est entièrement faux, dit la mère. Elle n'a naturellement pas, en sortant, changé de culotte. Je demande aussitôt à Hans. Tu as raconté que maman avait mis une culotte noire et qu'en sortant, elle l'avait ôtée. Et qu'en revenant, elle l'avait remise. Maman dit que ce n'est pas vrai. Je pense que peut-être j'ai oublié qu'elle ne l'avait pas. Laisse-moi donc qu'elle ne l'avait pas ôtée. Laisse-moi donc tranquille. Et Hans. Enfin, c'est comme ça, vous pouvez... C'est très drôle. Hein. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que Lacan, dans son chapitre, dans le chapitre 17, dit combien c'est important. Et le style, il rapporte le style de parole, de réponse de Hans au vitz de Freud. Alors voilà ce qu'il dit, donc page, et on va en terminer par ça. Donc page 294, donc du séminaire. Alors, par le vitz, il y a quelque chose qui est très important et qui opère au niveau du signifiant. Tout ce que Freud va développer dans ce travail, c'est le caractère véritablement détruisant, disrompant du jeu du signifiant par rapport à ce qu'on peut appeler l'existence du réel. À jouer avec le signifiant, la valeur du trait d'esprit, et qui le distingue du comique, c'est sa possibilité de jouer sur le foncier non-sens de tout usage de sens. C'est-à-dire qu'on voit bien que Hans, dans les réponses à son père, là où le père veut tout le temps introduire du sens, eh bien, Hans tente de toucher ce point de non-sens. Ce qui provoque, il fait, à sa façon d'enfant, il fait de l'esprit, on pourrait dire. Bien sûr, avec une forme de naïveté, qui est propre à l'enfant. Le fait d'ailleurs que l'enfant, il dira un peu plus loin à la page 95, le fait que l'enfant aille directement à une énormité sans se donner la moindre peine déclenche le rire. Cela devient très drôle avec ce que ce mot drôle peut comporter de résonance en même temps étrange. C'est au milieu de la page 225. Ainsi, Hans fin. Dans la naïveté, donc l'enfant affecte d'être naïf, c'est-à-dire qu'il feint. On y trouve là une dimension du symbolique qui est exactement ce qui se laisse sentir à tout instant dans ce jeu de cache-cache, cette moquerie perpétuelle qui colore toutes les répliques de Hans à son père et en donne le ton. Le père interroge son fils, qu'as-tu pensé quand tu as vu le cheval tomber? C'est à propos de cette chute que Hans nous dit avoir attrapé la bêtise. Tu as pensé, dit le père, qu'avec ses gros sabots, que le cheval était mort, donc je vous ai lu cet exemple. Et Hans réplique, oui, oui, en effet, j'ai pensé cela, et il rit. Il se ravise et il rit. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est seulement une bonne plaisanterie que je viens de faire en disant cela. Alors, on pourrait en rester là. Je propose qu'on en reste là. On arrive un peu à la fin de ce chapitre. Il y avait une... Voilà, il y a encore un petit passage aussi qui est important à lire de Lacan à la page 299. Il dit ceci. La fonction symbolique est liée pour le petit Hans à un questionnement qui lui est essentiel. Qu'est-ce qui se perd? Qu'est-ce qui peut s'en aller par le trou? Ce sont les éléments premiers de ce qu'on peut appeler une instrumentation symbolique, dit Lacan. Et ils s'intégreront par la suite au développement de la construction mythique du petit Hans. Alors, il y a toutes les... Il y a toutes les, tous les passages énigmatiques avec le noir autour de la bouche. Qui montrent... Voilà, je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Je crois que beaucoup de choses vont revenir. Peut-être on peut discuter un peu.
Volontiers.
Peut-être en rester là. Je ne vais pas préparer plus loin.
Moi, j'aimerais bien revenir sur certains éléments parce que finalement, depuis la séance précédente et en lisant aujourd'hui et vous entendant, j'ai beaucoup de questions qui naviguent autour de la question du mythe, au fond. Et j'aimerais bien essayer de les rassembler. Bon, elles seront peut-être trop nombreuses, mais c'est pour essayer de suivre mon fil. La fois passée, j'avais dit mon étonnement de voir ce terme apparaître, le terme mythe, qui pour moi fait d'abord référence à l'Antiquité grecque, et qui dans ce cadre-là, en tout cas avec mes références personnelles, n'a pas du tout... la plasticité qui est développée ici et qui est plutôt un système d'explication figée du monde, en tout cas tel que c'était chez les Grecs, ce qui n'est pas du tout l'emploi qu'en fait Lacan ici, à la suite de Freud, dans le développement du cas du petit Hans. Donc ça, c'était déjà une première source d'étonnement. Et je me disais, au fond... Première question, est-ce qu'on parle ici, au fond, dans cette cure de mythe, parce qu'on se trouve dans la cure d'un enfant? Est-ce que c'est un terme qu'on associe particulièrement comme un mode de construction, et je vais revenir sur ce mode de construction, au fait qu'on est en présence d'un enfant et que c'est un terme qu'on n'utiliserait pas dans le cas d'une cure d'adulte, où on parlerait, de rencontres successives à ces différentes identifications, de tout le blabla qu'il peut y avoir autour. Enfin, où se situe ce terme de mythe? Enfin, moi, j'avais comme l'intuition qu'il y avait un lien à l'enfance. Bon, c'est une question. Il y a aussi, au fond, qu'est-ce qui fait qu'ici, bon, on voit bien qu'il y a la question de la structure du sujet, mais qu'on parle de mythe, où est la limite entre mythe et délire? Ou bien entre mythe et une histoire où on raconte les étapes successives de sa vie, donc plutôt du côté de la névrose à ce moment-là. Donc c'est cette articulation-là également qui, à travers le cas, au fond, me pose question. Vous avez, alors je vais continuer sur le mythe en laissant cette question-là de côté, mais au fond, en parlant de ces éléments du mythe à la façon dont Lévi-Strauss les développait, Lévi-Strauss que je n'ai pas été relire, mais c'est en vous entendant, de succession horizontale et verticale et d'éléments qui se combinent, je me dis, tiens, c'est peut-être là un point de départ de cette différence avec le mythe grec dont je parlais au départ, c'est qu'au fond, ce mythe qui lui sert de construction là où il n'a pas directement accès à la symbolisation et à l'ordre symbolique, ce serait un peu comme une substitution dans l'ordre du signifiant de ce qu'on appelle diachronie et synchronie.
Oui.
D'une succession linéaire dans le sens du déroulement de la parole, mais aussi de tous ces éléments d'un paradigme qu'on peut intervertir. Au fond, c'est au niveau du mythe qu'on le retrouve comme substitut de ce qui pourrait se construire dans l'ordre du signifiant. C'est un peu comme ça que je l'entendais. En tout cas, voilà, c'était ce que ça m'évoquait, mais ça donne envie d'aller relire Lévi-Strauss, en tout cas. Et puis dire aussi qu'à travers tout ce côté du jeu de mots et de la, de la façon dont il répond à son père, au fond, mais vous l'avez dit autrement, c'est une façon d'aller pointer le côté semblant du symbolique à sa façon d'enfant. Voilà, toute une série de questions autour de cette question du mythe, finalement.
Alors, je crois que si Lacan dit mythe, en tout cas dans ce qu'il dit ici, c'est parce qu'il fait la référence à Lévi-Strauss, hein. Et pas seulement à la construction. Il montre, en somme, dans son texte Lévi-Strauss, dans la structure des mythes, il montre comment un mythe peut être... travailler vraiment le texte de Lévi-Strauss, mais il montre comment les signifiants se déplacent, même dans un mythe qu'on croit figé de l'Antiquité, comme le mythe d'Oedipe. Hein, bien, il montre comment il y a une combinatoire, comment il y a un déplacement dans l'horizontalité, la synchronie et la diachronie. Et donc, il prend... Alors, forcément... les mythes du petit Hans sont des mythes singuliers et pas universels. Mais est-ce que c'est pas si sûr, ça, qu'ils soient pas universels? Parce qu'ils ont une référence à l'universel de la castration, etc. Et dans une série de déplacements, ce qu'il veut dire, c'est que on ne peut pas prendre d'une manière, surtout c'est ça qu'il dit, on ne peut pas prendre les choses d'une manière univoque. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué, et ça a une structure. Maintenant, et la structure, elle est de l'imaginaire qui passe au symbolique pour traiter quelque chose d'inassimilable qui est du réel. C'est-à-dire, il y a aussi quelque chose d'intéressant que dit Lacan dans ses chapitres. Par exemple, il dit « Le petit Hans tient vraiment à sa masturbation et il tient à sa jouissance pénienne jusqu'au bout. » Et c'est ça qui va le guider jusqu'au bout, jusqu'à la résolution de sa phobie. Et c'est ça qui va faire qu'il va tenir tête contre le père, dit Lacan, à un moment donné. Mm-hmm. Bon. Et qui va faire qu'il va pouvoir aller contre ce côté « ça égale ça ». Et il va le trouer tout le temps. Il va trouer le père tout le temps. Tout le temps, l'imaginaire univoque. On voit bien, hein, le père, comment il introduit une signification univoque à chaque fois de ce que... Il peut pas... Le double sens chez le père, c'est Hans tout le temps qu'il doit lui rappeler. Et c'est vraiment... je pense que c'est très important. C'est très important sur la question de qui est l'analyste là, c'est le petit Hans. Puisque c'est lui qui, tout le temps, rappelle cette place qu'il y a l'objet derrière ça, qu'il y a quelque chose qui échappe, et tout le temps, il vient le rappeler au père. Enfin, il me semble. Enfin, je ne sais pas si c'est satisfaisant. C'est une question très importante, en temps difficile. Pourquoi il dit mythe, petit mythe?
Mais si j'ai un peu le temps, j'irai relire Lévi-Strauss pour la fois prochaine. Ça peut être intéressant. Ça, ouais. Est-ce que vous avez des questions?
Une histoire.
En inventant une histoire dont le succès sera directement proportionnel avec c'est en fonction même de ce qui est l'élément réel, on parle des réels simples. Pourquoi l'on parle? Voilà un réel pour les autres que nous sommes. Donc on peut répondre à ça en inventant une histoire mythique. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire mythique qui est devenue. On a aussi remarqué que le père symbolique n'intervient pas. Le page 210, il dit que le père symbolique est important.
Oui. C'est une fonction.
Voilà.
C'est là ou pas là, enfin, cette fonction.
Voilà. Mais il donne la réponse aussi, page 210.
C'est séminaire 4, hein. Après, il faut le séminaire 5 pour qu'il y ait la métaphore paternelle qui surgisse.
Voilà.
Mais ici, pas, ça, c'est...
Parce que la femme, dans cette contribution, si le père symbolique est impensable, parce qu'il dit le père symbolique, chez Freud, Freud a inventé un mythe pour expliquer l'apparition du père symbolique, et que cette place est occupée par un mort. Le père symbolique, c'est le père mort.
Ben oui, tout est métabou.
Le thème est tabou. Et le papa du petit ange, il y a une contradiction entre faire le papa et faire le père mort. Le père mort est impensable sur pied, est impensable sur pattes, me semble-t-il.
Oui.
Parce que le père symbolique peut pas être vivant.
Non, voilà, tout à fait.
Alors, le papa, c'est tout vivant d'ordinaire. Et donc,
c'est la fonction comme telle qui permet la symbolisation. Et c'est pas, ça ne, c'est pas une personne, voilà. C'est pas incarné, justement.
Comme tu dis, il soutient le machin, il soutient un truc.
Et comme le donc derrière Freud, il y a le père symbolique.
Le père symbolique n'est nulle part, il n'intervient nulle part.
Oui. C'est... Voilà. C'est écrit comme ça dans.
Quand un métabou est fait pour vous dire que pour qu'il subsiste des pères, il faut que le vrai père, le seul père, le père unique, soit avant l'entrée dans l'histoire et que ce soit le père mort.
Oh ben oui, voilà. Ici, oui. Tout à fait. Donc c'est un père mythique. Qui permet le mythe, enfin je veux dire. Peut-être encore.
Oui. Peut-être encore une question ou l'autre. Vous voulez ajouter un mot de clôture ou?
Mais non, voilà, ça m'a.
On en reste
j'étais contente
là pour
de faire
aujourd'hui.
Ce travail, d'aller pour plonger un peu dans ces deux chapitres. Voilà, ça a été une occasion.
Donc on se retrouve, que je reprenne la date. Ce sera le 30, non, le 9 du 3 avec Véronique Robert. Voilà. Au revoir.
Ah, la suite, ça se complique.